Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Salut Morren.
Salut, comment ça va en ce 28e podcast?
Ça va, c'est super, j'ai la pêche. Ce soir, j'ai une partie d'Exalted alchimique. C'est du cyberpunk communiste. Excusez du peu, et ça va roxer. Donc, on va commencer cette semaine d'actualité par les exclus du PSN, parce qu'il y a des prix qui ont été dévoilés, je crois. Et donc, tu vas nous détailler tout ça, mon cher Mandren.
Exact. Alors, donc la PlayStation Vita sort la semaine prochaine, donc la semaine de la sortie du podcast. Et il y a des jeux qui vont sortir exclusivement sur le PSN, et on attendait un petit peu la confirmation des prix. Et on les attendait... pas si intéressant que ça en fait, et finalement PlayStation France vient juste de les communiquer. Donc on sait que Escape Plan, dont je vous avais parlé dans le podcast numéro 26, donc je vous encourage à aller l'écouter si vous voulez savoir ce que je pense de la PlayStation Vita et de ses jeux.
Et donc à quel prix on va le trouver, ce petit jeu?
12,99€, donc on l'attendait plus à 18€. Et donc là finalement il sera 5€ moins cher, donc c'est un bon plan, surtout que c'est une des exclus PSN les plus intéressantes au niveau du lancement de la PlayStation Vita, et je vous encourage à vous renseigner sur le jeu, parce que franchement c'est très intéressant. Pour avoir pu y jouer, pour avoir testé la démo, franchement c'est très sympa au niveau de l'utilisation de toutes les nouvelles features de la PlayStation Vita. C'est vraiment très très intéressant. Après, on a MotorStorm RC. Donc ça, c'est bon. Vous pouvez peut-être passer votre chemin. En fait, c'est un spin-off de MotorStorm.
Comment il y va, lui, direct? Vous pouvez passer votre chemin.
En fait, je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, c'est un espèce de mini-jeu en fait où tu contrôles pas les voitures de MotorStorm, mais des voitures radiocommandées. Et c'est pas forcément très très intéressant. Je l'ai testé, c'est pas mirobolant. Ça coûtera 5,99€, donc 6€. Voilà. Après, trois autres jeux complètement inconnus, enfin que j'ai pas pu tester, donc je sais pas du tout ce que c'est. Super Stardust Delta, qui sera à 7,99€, tout comme Hustle Kings et Top Darts. Top Darts, c'est un jeu de fléchettes. Super.
Oh super, j'ai hâte de tester le jeu de fléchette avec le gyroscope et tout, ça va roxer, je sens.
Voilà, donc en fait, si je vous parlais de ça, c'était surtout pour Escape Plan, que je vous encourage à pas rater, en tout cas dans ce lancement PlayStation Vita, qui est assez touffu quand même, l'air de rien, et où il faut pas ignorer les bons jeux, voilà.
Voilà. On a eu d'autres tarifs aussi cette semaine, et cette fois c'est les tarifs de la 3G pour la PlayStation Vita chez SFR.
Oui.
Et là, attention, préparez le suppositoire parce que ça va faire mal. Hein.
On sait que Sony a contracté une espèce d'alliance avec SFR pour avoir des tarifs 3G qui sont plus intéressants chez SFR que chez la concurrence. Donc c'est pour ça que je vous parle des prix SFR, hein, puisque techniquement pour le joueur et pour l'utilisateur, ce sera ceux qui seront les plus intéressants. Alors, il y a des offres qui seront disponibles au niveau ne serait-ce que de l'achat de la console. Alors, ça peut peut-être vous intéresser, même s'il y a un gros mais. Donc à savoir que la version 3G de la console est vendue normalement à 299,99€, donc 300€. Et si vous choisissez de vous abonner avec SFR pour une formule 1 giga par mois à 27€ par mois, vous aurez l'opportunité d'avoir la console à 29€. Donc 129€ que vous paierez, et ensuite il y aura 100€ qui vous seront remboursés.
Alors là, maintenant tu vas me dire, où est le mais? Parce que forcément,
vous êtes bien que vous payez pas votre abonnement à 27€ un seul mois, vous le payez pendant 2 ans. Donc voilà, donc c'est un petit peu la mode en ce moment d'acheter un appareil quel qu'il soit. Ça peut être un téléphone portable, un ordinateur portable, une console même, à un prix réduit, mais vous enchaînez avec un opérateur pendant X années. Donc là c'est 2 ans. Donc bon, c'est ça le gros mais. Voilà.
Voilà.
Que si vous contractez l'abonnement à 3 gigas à 37€ par mois, là aussi pendant 2 ans, vous aurez la console à 1€. Voilà. Donc vous paierez 100€ dans le magasin, mais on vous en remboursera 99€. Voilà. Sinon, peut-être plus intéressant pour les autres qui ont envie de rester libres, n'est-ce pas? Vous avez les recharges de 3G, donc ça va de 50 mégas à 3 gigas. 50 mégas, ça coûtera 3 euros. 3 gigas, ça coûtera 35 euros. Et donc, il y a un éventail de prix de 50 mégas à 3 gigas, bien évidemment. Et vous avez aussi des passes illimitées, donc 24 heures qui seront vendues 6 euros ou 48 heures qui seront vendues 9 euros. Voilà. À savoir que si vous achetez ne serait-ce qu'une recharge à 50 mégas, donc à 3 euros, vous aurez gratuitement le jeu Wipeout 2048, qui normalement est vendu 45 euros dans le commerce. Voilà. C'est toujours bon de le savoir quand même. Voilà, j'en ai terminé avec ces prix. On peut terminer le téléachat maintenant.
Air connu. Ensuite, nous allons maintenant passer à la séquence indépendant. Je vais revenir sur une news que j'avais évoquée la semaine dernière, à savoir une news sur Psychonauts 2, parce que Notch est un peu revenu sur ses déclarations.
Il a nuancé ses propos.
Oui, il a nuancé ses propos parce que bon, le truc c'est que effectivement il était prêt à financer le jeu, mais en fait dans sa tête il pensait à un budget trois fois moins élevé. Donc forcément, Tim Schafer avait évoqué un budget de 12 millions d'euros pour Psychonauts 2, donc ça veut dire que Notch s'attendait plutôt à 4 millions.
Je crois qu'il a dit que Psychonauts 1 avait coûté 13 millions de dollars à l'époque.
En tout cas, ça serait dans ces eaux-là. Mais Notch s'attendait pas du tout à ça. Mais bon, bonne nouvelle, c'est que quand même, apparemment, il y aurait plusieurs investisseurs qui seraient intéressés par le projet. Ça, c'est ce qu'a dit Notch. Ouais. Donc, écoute, tous les espoirs sont permis. En tout cas, si Notch a investi une partie de sa piscine en or dedans, ça devrait faire. Dans tous les cas, écoutez, on espère que ça va aboutir. Wait and see, j'ai envie de dire.
En tout cas, Notch a dit aux internautes qui n'arrêtent pas de lui envoyer des mails pour faire pression sur lui qu'il faudrait peut-être arrêter parce qu'il en a un petit peu marre.
Non, mais allez-y, continuez, là. Faut mettre la pression, là. Faut qu'il s'aide. Ensuite, nous allons évoquer le prochain jeu de la team Terraria. Et oui, la team Terraria a dévoilé son prochain jeu. Ce jeu s'appelle Starbound. Mmh. Alors, lorsque vous verrez les visuels, ne vous étonnez pas si ça vous évoque Terraria, parce que finalement, ça ressemble effectivement beaucoup.
Ah oui.
Sauf que, grosse nuance par rapport à Terraria. Déjà, ce sera donc un jeu de SF.
Oui.
Il y aura plusieurs systèmes, etc., qui seront donc générés aléatoirement.
Mmh.
Ça, c'est très intéressant. Et vous pourrez envoyer ces coordonnées à un pote. D'accord. Et lui aussi, comme ça, il pourra aller sur ces planètes, cette planète-là, faire un tour. Mmh. Et déjà, ça, c'est très intéressant. Ensuite, petite nuance par rapport à Terraria. Donc, je ne sais pas si tu as joué à Terraria, mon cher Mordren. Dans Terraria, en fait, si tu veux, le monde n'a pas de fin. Enfin, c'est un monde plat, voilà, si tu veux. Mmh. Alors que là, par exemple, dans Starbound, les planètes seront rondes.
D'accord.
C'est-à-dire que si tu vas vraiment loin, à un moment, tu reviendras à ton point de départ, quoi, tout simplement.
D'accord.
Elles seront toujours plates, mais quelque part, ça sera sphérique parce que tu reviendras au bout d'un moment à ton point de départ.
Mais du coup, il y en a plusieurs, donc ça compense.
Ouais. Mais voilà, en plus, il y aura une infinité de planètes et tout.
Ouais.
Et grosse nuance en rapport à Terraria. Il y aura un fil conducteur, il y aura une histoire, et ça, pour moi, ça change tout, parce que c'est vraiment un gros manque que j'avais, moi, personnellement, sur Terraria. Ça manquait un peu d'un lien, quoi, si tu veux. Et du coup, vraiment, ça m'attire, ce projet m'attire énormément. En plus, là, il y aura 6 personnes sur le projet. Alors, je vous dis pas, ils ont un putain de budget, parce qu'au départ, je rappelle, Terraria, c'est 2 personnes. Hein. Donc, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, d'autant plus qu'au niveau de la direction artistique, contrairement à Terraria, que je trouvais, enfin, c'était mignon, mais bon, l'esprit des persos, on aurait dit qu'ils sortaient tout droit de Final Fantasy, et je trouvais que ça manquait un peu d'identité. Là, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve qu'il y a vraiment une petite touche qui pourrait être très sympa, quoi.
Ouais, moi j'ai bien aimé surtout le vaisseau spatial qu'on voit dans les screens que tu m'as montré.
Ouais, franchement, c'est très chouette, les persos sont super bien modélisés et tout, donc écoutez. Ça s'appelle Starbound.
Ouais.
Et affaire à suivre.
À surveiller, ouais, c'est sûr.
Voilà. Encore par rapport à la news de la semaine dernière, j'avais dit que l'initiative de Double Fine allait éveiller les appétits chez certains, n'est-ce pas? Eh ben, écoute, ça
n'a pas manqué.
Donc, après Obsidian, donc c'est au tour de Brian Fargo de se dire très intéressé par ce genre d'initiative. Mais alors, vous allez me dire, mais qui c'est Brian Fargo, hein? pas, j'imagine que tu ne sais pas évidemment, Morgan.
Très peu, non. Enfin, j'ai lu à peu près ce qu'il avait fait. Le problème, c'est que ça me parle pas du tout.
Et voilà, c'est ça les jeunes, tous
C'est ça.
incultes. Donc, Brian Fargo, écoutez, bah, c'est le fondateur d'Interplay. Alors là, t'as tous les vieux qui ont un orgasme là, parce que Interplay, c'est vraiment une boîte culte des années 90. Donc, je rappelle son CV, hein, c'est Westland, Stonekeep, Barcel, c'est pas n'importe qui quand même. Et donc, il a dit, écoutez, si vous désirez une suite à Westland, eh bien, ça sera 1 million de dollars. Bon, moi, je dis why not, parce que je rappelle quand même que sans Westland, il n'y aurait pas eu de Fallout. Parce que Westland est clairement l'ancêtre de Fallout. Sans ce jeu, et vous, petits jeunes ignorants, vous n'auriez pas de Fallout aujourd'hui.
Il le dit lui-même, hein, d'ailleurs, Brian Fargo, hein, dans une interview qu'il a donnée.
Le truc, c'est que bon, là, maintenant qu'on a dit ça, c'est pas mal, mais maintenant, à chaque fois, il faut regarder ce qu'il y a, quoi, sur le
C'est
papier,
ça.
le CV des mecs, quoi. Et là, le truc, c'est que bon, moi, je regarde ce qu'il a fait depuis 10 ans, en fait. J'ai joué à certains de ses jeux, notamment au Bartel tout pourri qu'il avait fait il y a pas si longtemps, là. Enfin, le viol qu'il avait fait sur la licence. Et le truc, c'est que, voilà, quoi, ça fait 10 ans qu'il a rien fait d'intéressant. Donc, moi, j'ai envie de dire, écoute, Brian, t'es bien gentil, hein. Mais le truc, c'est que ça fait longtemps que t'es plus crédible, quoi. Et donc, 1 million de dollars, je pense que là, à mon avis, tu rêves, quoi. Parce que déjà, les petits jeunes n'y connaissent pas. Donc,
Déjà, ouais, c'est
qu'est-ce
vrai.
qu'ils vont aller te donner 1 million de dollars? Je veux dire, Tim Schafer, quand même, c'est encore quelqu'un qui fait des choses, etc.
Ouais, mais après,
Même si on est d'accord, les derniers jeux de Tim Schafer sont pas forcément, c'est pas forcément l'orgasme non plus, quoi, mais
ouais, peut-être, mais ils ont une patte quand même. Tu vois, regarde, ne serait-ce que Brutal Legend,
ouais.
c'est peut-être pas un énorme succès, mais il a clairement un affect, quoi.
Bon, en tout cas, Tim Schafer, c'est quelqu'un qui est connu, même aujourd'hui, même chez les jeunes générations, etc. Alors que Brian Fargo, je veux dire, à part les vieux cons comme moi, il est connu de personne, et en plus, les 2-3 genots qui iront voir son CV vont dire, attends, mais il a fait que de la merde ce type depuis 10 ans, là, donc pourquoi j'irais lui donner de l'argent?
Ouais, mais
Ils en
d'un
pensent.
autre côté, ceux qui donnent de l'argent, c'est peut-être pas forcément les petits jeunes, quoi. Donc,
Ah, non, je demande à voir, écoute,
oui,
je n'ai
après,
pas
on sait pas, hein,
d'idée,
mais
pas, mais.
ceux qui donnent le plus, en tout cas.
Mais le truc, c'est que même les vieux, si tu veux, eux aussi, ils regardent ce qui a été fait récemment, quoi. Je veux dire,
Oui,
c'est
bien
bon,
sûr.
hein, c'est pas la première fois qu'il y a un vieux bichard qui revient sur le devant de la scène et que forcément, il n'est pas peut-être pas à la hauteur de ses prétentions, quoi. Et bon. Moi, en tout cas, personnellement, je veux dire, donner de l'argent comme ça sur un projet, vu ce que le mec a fait, très clairement, non. Autant je veux bien donner sa chance à des petits jeunes qui ont tout approuvé, mais le truc, c'est que s'ils se plantent après, c'est clair que je redonnerai pas, quoi. Alors, autant là, je veux dire, le mec, je suis désolé, il a son CV, et moi, je donnerai pas sur des promesses comme ça, à moins que le mec sorte une démo, je sais pas, mais je lui donne pas 1 million de dollars comme ça, cash, faut arrêter, quoi.
C'est surtout que, tu vois, genre, Tim Schafer, il a demandé 400 000. Déjà, on se disait, bon, c'est beaucoup. Bon, finalement, il a dépassé les espérances, mais ça, c'était pas prévu à la base. Là, quand tu demandes déjà 1 million de dollars, parce que bon, là, en fait, il fait preuve de suivisme, hein, Brian Fargo.
Ouais.
1 million de dollars, c'est beaucoup quand même. Enfin, alors, moi, personnellement, je sais pas où est-ce que ça va
Bah,
me
si tu
mener,
veux,
mais...
non, enfin, c'est beaucoup pour nous, simples mortels, comme un des
Oui,
mortels,
bien
pour un
sûr.
projet de RPG, je précise, parce que un RPG, quand même, c'est déjà faire un projet sérieux, je pense que ça demande 1 million de dollars, je pense que c'est pas tant demandé que ça,
Bien
si tu
sûr.
veux, mais en plus, un projet de RPG, un tant soit peu ambitieux, 1 million de dollars, quand on sait à quel point c'est compliqué de faire un jeu de rôle, je veux dire, t'as des tonnes de dialogues, faut mettre en place l'univers, la création de l'univers, etc., ça demande beaucoup d'argent, ça me paraît pas tant que ça, mais effectivement, c'est sûr que par rapport à nous, ça fait beaucoup d'argent,
Voilà,
quoi.
au niveau du seuil psychologique, c'est important quand même.
Encore, tu vois, on parlait d'Obsidian la semaine dernière, moi, Obsidian, tu vois, si ça arrive, il demande 1 million, moi, je suis prêt à investir dans le truc.
Ouais.
Mais là, le truc, c'est que le mec, moi je suis désolé, il a pas les épaules pour quoi. C'est ça le problème quoi, tout simplement. Donc bref, moi en tout cas je suis pas persuadé que ça aboutisse à quelque chose. Hein. Moi je pense le mec il a lancé son idée comme ça pour voir les réactions un
Ouais,
peu,
peut-être, ouais.
voir ce que ça allait donner.
On
Bon.
verra bien.
Moi, je vous avoue, je suis beaucoup plus intéressé de voir ce qui se passe du côté de chez Bethesda, enfin chez Bethesda, lapsus
Obsidian.
révélateur, chez Obsidian. Bon, même si, encore une fois, là par contre, je trouve en fait c'est un peu l'inverse de la news de la semaine dernière. Chez Obsidian, ils ont le CV,
Ouais.
si tu veux,
Mais ils ont
mais
rien à montrer.
ils ont pas le projet.
C'est ça.
Alors que là, bon, même si c'est finalement ils nous proposent du vu quoi, du
Ouais.
déjà vu chez Brian Fargo, mais ils proposent quelque chose, tu vois,
C'est ça.
c'est le truc qu'il a envie de faire. Et voilà, donc Obsidian, n'est-ce pas?
Si tu nous regardes.
Si vous m'entendez, lancez-vous bordel, arrêtez de demander aux gens s'ils veulent, lancez-vous. Et moi, en tout cas, j'ai tellement eu du plaisir sur vos jeux que quoi qu'il arrive, je vous soutiendrai derrière, il n'y a aucun souci. Pour terminer donc sur cette séquence indépendant, je voulais vous parler d'un MMO. Eh oui, mais un MMO assez spécial parce que c'est un MMO 8 bits. Bon, 8 bits, à mon avis, c'est un peu exagéré parce que clairement, moi, ma NES, elle fait pas tourner un jeu aussi beau, hein,
C'est
ça c'est
clair.
clair.
Enfin, aussi beau entre guillemets.
Bah, aussi beau, mais c'est clair que ça tourne pas sur une console 8 bits.
Oui, c'est clair.
Qu'est-ce qui m'a attiré dans ce jeu au graphisme d'antan, n'est-ce pas? C'est outre le fait que ce soit un MMO, bah, en fait c'est un MMO où les joueurs vont tout construire quoi. Parce que comme ça ressemble un peu, si vous voulez, à un Minecraft version 8 bits.
C'est ça.
Et moi, un MMO comme ça où les joueurs vont vraiment tout gérer quoi, ça m'intéresse grandement quoi. Surtout que là finalement, bon, je veux dire, comme c'est de la 2D basique, etc., il n'y a pas besoin non plus d'un moteur de fou quoi
Ouais,
derrière.
ouais,
J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais
ouais.
ça a une petite patte comme ça, c'est marrant à voir quoi.
Mais en tout cas, oui, c'est sûr que moi j'aime bien l'idée que le monde est 100% créé par les joueurs.
Ouais.
Et ça peut être intéressant.
Un monde où tu as une influence sur ce qui se passe. Un vrai MMO, un vrai monde persistant.
Beaucoup, beaucoup ont essayé, enfin beaucoup ont dit qu'ils allaient le faire, très peu ont
Ils ont eu des
réussi, hein.
problèmes.
Ouais, c'est ça.
Bref, affaire à suivre. Et voilà, c'est terminé pour la séquence MMO cette semaine. Et maintenant, on va passer à, je pense, une annonce qui t'a fait très plaisir, mon cher Bordelaine.
Bah,
Cette annonce, c'est Assassin's Creed 3.
ouais, alors elle m'a fait très plaisir. Enfin, en tout cas, je m'y attendais. On l'avait présupposé que Assassin's Creed 3 sortirait en 2012. Ça a été confirmé par Ubisoft. Ça sortira, bon, a priori le 30 octobre, mais bon, on est en février, ça a le temps de changer d'ici là, bien sûr. Évidemment, on sait absolument pas de qu'est-ce qu'il en retourne au niveau de. Du scénario, hein, bien évidemment, ce serait trop beau.
Alors,
Mais
est-ce qu'il y aura des révélations dans cet Assassin's Creed?
non. Ça,
C'est la question.
c'est la bonne question. Enfin, en tout cas, j'attends que ça change vraiment de ce qu'on a vu ces 2 dernières années. Je croise les doigts parce que sinon ça va pas me plaire. Et Ubisoft en ce moment, c'est un petit peu le moment où ils parlent de leurs recettes et de ce qu'ils ont vendu, et ils en ont profité pour dire que Assassin's Creed Révélation avait déjà vendu plus de 7 millions de copies. Donc ce qui augure finalement du bon pour le troisième épisode, hein, le vrai troisième épisode.
Pour un jeu qui ne révèle rien du tout au final, c'est quand même pas mal,
C'est vrai que c'est pas mal, hein. Et
hein.
un jeu qui est relativement décevant quand même, c'est vrai que c'est pas mal, 7 millions de copies. Et toujours dans leur chiffre de vente, enfin leur chiffre de vente, on sait, enfin ils auraient annoncé que Rayman Origins était devenu rentable. Ils ont pas dit combien ils en avaient vendu, mais a priori ils ont rentabilisé le jeu, donc ce qui est déjà pas une mauvaise nouvelle. Voilà, toujours dans les dates, on sait que bon, on est un petit peu dans le vague là-dessus, mais on sait que l'Unreal Engine 4 va sortir en 2012.
Je rappelle Unreal Engine 4, hein, c'est le prochain gros moteur d'Epic.
Ouais.
Et ils ont montré une vidéo Bon, je vous cache pas que la vidéo, c'est un PC du futur qui la faisait tourner, donc n'espérez pas avoir le même rendu. Il y a aucun PC actuellement qui l'a fait tourner comme ça, donc. Mais, mine de rien, ça prouve que le moteur a du potentiel, en tout cas. Et aussi, donc, une news importante, enfin importante, on s'en doutait, mais Mark Rain, n'est-ce pas, le créateur donc du moteur, a laissé entendre que le jeu, en tout cas, enfin le jeu. Ce moteur-là tournait sur des consoles qu'il n'avait pas le droit de nommer. Donc, quelle surprise, n'est-ce
Ouais,
pas? Donc, bon, on espère qu'en tout cas, ces consoles qu'il n'a pas le droit de nommer seront montrées cette année avec ce fameux moteur, n'est-ce pas? Imagine, je sais pas moi, une conférence Microsoft à l'E3 avec l'Unreal Engine.
pourquoi pas?
Ah, ça serait,
Ça serait intéressant en tout cas.
je sais pas, pour le prochain jeu de Mark Rain qui présentait à l'E3.
Qu'on
Sur
nous
ce
explique
moteur,
la rétine un petit peu, ça serait cool.
ça serait cool,
Voilà, donc toujours dans les dates, on sait que Journey, le jeu dématérialisé de Genova Chan, sortira le 14 mars exclusivement sur le PSN. On savait que ça sortirait, mais on savait pas trop quand. Maintenant, on sait exactement quand est-ce qu'il sort, le 14 mars. Gravity Rush, dont on vous avait parlé quand j'avais parlé de la PlayStation Vita dans le podcast 26. Le jeu techniquement que j'attends le plus en fait de la PlayStation Vita, c'est confirmé qu'il ne sera pas au lancement le 22 février, mais
Et
il
en news
sortira.
encore plus grave, en
Oui,
plus,
c'est vrai.
il ne sera pas en boîte.
C'est ça. Il
Et
sortira en
là, ça fait
dématérialisé.
mal.
Et alors après, j'ai peut-être une explication à ça. Enfin, en tout cas, l'explication du fait que ça sortira au printemps 2012 et pas au lancement, c'est que le lancement est déjà assez chargé en termes de licence. Et peut-être que du coup, dans cette espèce de magma de jeu, Gravity Rush aurait peut-être pas pu trouver preneur. Alors peut-être qu'il le réserve un petit peu pour plus tard, avec l'effet de la critique qui est très très positive autour du jeu, pour peut-être en espérer en vendre un petit peu plus. Après, le dématérialiser, je sais pas du tout pourquoi.
Ouais, ça c'est vraiment c'est l'un des jeux les plus ambitieux du lancement quoi et pas de boîte
En plus, c'est de l'original, hein, c'est
et
une licence
ouais
originale, ça n'existait pas avant. Et donc, je ne comprends pas pourquoi. Sachant qu'en plus, on est les seuls à l'avoir en dématérialisé. L'Europe sera la seule région du monde à l'avoir en démat.
s'il sort en boîte aux US bah écoutez importez vos jeux
Après,
vraiment
bon. S'il
voilà.
si peut être vendu moins cher et s'il peut se vendre plus grâce à ça, pourquoi pas. Mais le problème, c'est quand tu vends en démat, c'est quand même beaucoup moins visible sur le
Non,
marché, quoi.
mais vendu plus, moi j'y crois pas. Hein.
Ouais, moi j'y
Attends,
crois pas non
on n'est pas sur PC là. Hein.
plus. Ouais,
Je veux dire, autant les PCI, ils ont à peu près aucun problème pour acheter un genre des maths. Autant on a vu le succès de la PlayStation Go, hein, j'ai envie de dire. Hein.
C'est vrai.
C'est vraiment une décision que je comprends pas. Enfin, ça me dépasse complètement là.
Ouais.
Surtout qu'ils ont investi de l'argent dessus. Hein. Je veux dire, à la base, c'est un projet PS3, Gravity Rush. Techniquement, c'est à peu près une tuerie. Ils ont vraiment investi beaucoup d'argent dessus. Et ils le sortent en démat comme ça.
C'est très étonnant, moi, je trouve.
J'espère qu'il n'aura pas le destin de Camille, quoi, parce que ce serait vraiment triste. Hein.
C'est vrai. Enfin, en tout cas, si je répète en fait ce que je disais dans le podcast 26, Gravity Rush, c'est vraiment le jeu qu'on attend le plus sur la PlayStation Vita. C'est pas Uncharted, hein, c'est Gravity Rush. Et je pèse mes mots, hein. Donc c'est vrai que si vous avez l'intention d'acheter une PlayStation Vita, surtout ne faites pas l'erreur de dénigrer Gravity Rush parce que vous manqueriez quelque chose d'important quand même. Voilà. Toujours sur les jeux qu'on attend à peu près et qui ne seront pas là quand on a envie de les voir, c'est Ni no Kuni PS3 qui ne sortira pas en Europe avant 2013. Je rappelle qu'il est sorti en 2010 au Japon.
Non mais là ça commence à... Enfin, le 2010 c'est la date de la sortie de la version PS3 ou la version DS?
C'est la version DS, ça j'en suis
Ouais.
sûr.
La version PS3 c'est en 2011 il me semble.
D'accord. Donc l'air de rien quand même, on l'attendait pas mal
Ouais.
cette version-là. Bon, après on a quand même eu des échos de personnes qui y avaient joué en import et qui n'avaient pas trouvé le jeu si génial que ça. Mais bon, c'est un jeu qu'on attend. Le problème, c'est que a priori ils veulent vraiment pas le donner le vendre aux US et en Europe. Alors aux USA, c'est pareil, il sortira pas avant la fin 2012 et nous on l'aura le premier trimestre en 2013. Donc voilà, enfin, ça prouve quand même que on n'a pas envie de d'abreuver les joueurs européens et américains de ces jeux-là, quoi.
On se croirait revenu 15 ans en arrière où ils mettaient trois plombes pour
Ouais.
sortir. Enfin,
C'est clair.
c'est n'importe quoi.
C'est assez assez pénible, mais bon, c'est comme ça. Hein, on peut pas y faire grand-chose malheureusement. Alors avant-dernière date, Pandora's Tower, un des derniers jeux de la Wii, hein, puisque bon, on sait que la Wii s'est terminée hein, maintenant. Le RPG donc Pandora's Tower sortira le 13 avril en Europe. Voilà, donc pour ceux qui veulent rentabiliser au maximum leur Wii.
Attention, tu as provoqué des polémiques, hein, parce qu'après ça, RPG, je
Ouais.
sens les intégrés du RPG qui vont venir. Attention, comme Zelda, c'est un jeu d'action-aventure.
D'accord.
Et je suis pas persuadé qu'ils auraient totalement tort,
Oui, non,
hein,
c'est vrai que oui, t'as raison. Je me rappelle maintenant des images, c'est vrai que c'est plus une sorte d'action-aventure, t'as raison. Donc le 13 avril, et dernière date, c'est la date de Far Cry 3.
Ah, l'un des jeux qu'on avait repéré.
Ah oui,
L'E3, ouais.
le trailer de l'E3 était, enfin, la présentation de l'E3 était vraiment assez intéressante.
Avec
Nous, on
le
s'est.
perso super flippant.
Ouais, j'avais bien aimé. Et donc ça sortira sur PS3 360 et PC le 6 septembre prochain. Voilà, donc on a quand même un petit peu le temps de le voir venir.
Je précise, avec, à mon avis, un retard à prévoir pour la version PC, comme d'habitude, parce que c'est bien connu, hein, chez Ubisoft, on annonce une date sur PC, et puis, genre, une semaine avant, ah bah non, c'est reporté, en fait, ah, et puis, en fait, il y aura un DRM, ah, et puis, non, donc, wait and see pour la version PC, moi, je dis
Ouais,
bien.
c'est clair. Enfin, voilà. En tout cas, un jeu qu'on a envie de voir et on le verra sans doute beaucoup plus à l'E3 prochain. Voilà.
Ouais, un jeu vraiment... J'ai hâte de faire des tours dans la forêt.
Au niveau de l'ambiance, ça s'annonce sympa, franchement.
Ouais. Eh bien voilà, c'est terminé pour l'actualité cette semaine. Et maintenant, on passe à ton jeu du moment, mon cher Mandren.
Oui.
Et ce jeu-là, c'est Kirby's Adventures.
Et ouais, en gros, un des derniers jeux de la Wii. Hein. En fait, pour Noël, Nintendo sur Wii avait deux cartouches, Zelda Skyward Sword et Kirby's Adventure Wii, qui s'appelle Kirby's Dream Land aussi, Return to Dream Land aux États-Unis. Donc en fait, c'est assez marrant parce qu'en 2011, on a eu le droit à trois jeux Kirby. Donc Kirby au fil de l'aventure sur Wii, Kirby Mass Attack sur DS et Kirby's Adventure Wii sur Wii, évidemment. Donc c'est un jeu en fait enfin moi je le surveillais un petit peu parce que je me disais que après au fil de l'aventure qui était clairement dirigé vers les enfants et un public plutôt jeune avec un visuel qui était très enchanteur mais
Et de
un
fait,
gameplay.
ouais, un gameplay très simpliste, j'ai envie
Oui.
de dire
Oui,
finalement.
très simpliste. Je me suis dit que peut-être Kirby's Adventure serait peut-être un petit peu plus difficile ou peut-être un tout petit peu plus exigeant en tout cas. Au niveau du visuel, ça rappelle exactement les Kirby's Dream Land de la N64 par exemple. Alors pas au niveau
Ok.
graphique hein, évidemment, mais au niveau du visuel. En fait, ça se déroule sur un plan 2D avec un scrolling horizontal ou vertical, ça dépend. En fait, dans Kirby, au fil de l'aventure, tu ne pouvais pas aspirer tes ennemis et absorber leur pouvoir.
Ouais.
Ça, c'était pas possible. Le Kirby, en fait, changeait de forme en fonction de la situation dans laquelle il se trouvait. Là, dans Kirby's Adventure, c'est de retour. Donc
Back to basics, c'est ça?
exactement, une sorte de retour aux sources en fait au niveau du gameplay. Donc tu peux de nouveau absorber les pouvoirs de tes ennemis. Alors évidemment, il y en a plein en fonction de tes ennemis. Donc tu peux donc le ce qui est intéressant en fait, c'est quand tu absorbes leurs pouvoirs, tu as accès à de nouveaux combos et des armes qui sont différentes. Parce que sinon Kirby, il se bat avec rien du tout quoi.
Ouais.
Il ne fait que absorber ses ennemis. Donc ça, au niveau du nombre de pouvoirs, c'est assez varié. Je les ai pas comptés exactement, mais il y en a plus d'une vingtaine. Aussi, ils ont ajouté ce qu'ils appellent des super costumes, où en
OK.
fait, à certains moments du jeu, donc c'est très scripté, hein, c'est pas aléatoire. Tu vas avoir un costume qui est plus impressionnant en termes d'effet. Donc par exemple, tu vas avoir une méga épée qui peut balayer tout l'écran et tuer tous les ennemis, voire déformer un petit peu le terrain. Donc ça, c'est les super pouvoirs. Ça n'apporte pas grand-chose, mais c'est au niveau du visuel, c'est un tout petit peu plus impressionnant que le reste. Bon, c'est sympa, mais c'est une nouveauté, mais c'est pas non plus la panacée quoi. Donc c'est plutôt sympa. Au niveau des capacités, donc les ennemis, il y a vraiment beaucoup beaucoup de combos. Donc ça, c'est sympa. Enfin, c'est jamais très difficile de les exploiter.
Mais il y a beaucoup de nouveautés à ce niveau-là ou tout le
Non
monde
non
peut
c'est
tourner un peu
non
il
non
y
il
a
y a
quoi comme nouveauté exactement au niveau des capacités c'est
bah c'est ça varie selon les ennemis en fait. Alors je peux pas te dire exactement lesquels sont nouveaux, lesquels sont anciens, puisque j'ai pas joué à tous les Kirby, mais il y en a très clairement qui sont nouveaux, notamment des tu peux faire des méga sauts avec un certain avec un costume qui fait un petit peu référence à un Superman. Enfin c'est voilà, c'est assez
Ouais.
marrant, mais bon, je te dis celui-là comme ça parce que c'est celui qui me vient en tête.
Mais bon, dans tous les cas, ils ont rajouté des niveaux, quoi. Je veux dire, c'est pas un copier-coller,
Ouais,
il y a de
y en
nouveaux
a
trucs, quoi.
évidemment qui sont les passages obligés où t'as l'impression, tu sais, c'est le petit Kirby avec un petit chapeau vert qui ressemble un petit peu à Link avec son épée. Donc celui-là, il est un petit peu là tout le temps, mais il y en a que vous reconnaîtrez évidemment. J'aime beaucoup aussi celui le costume de karatéka. Ça c'est il est assez marrant. Et donc en fait au niveau des combos, c'est vraiment très lié. Alors ça se joue, je l'ai pas dit, mais il n'y a pas de nunchuk dans Kirby's Adventure Wii. Tu joues en fait avec la Wiimote à l'horizontale. Donc tu utilises la croix directionnelle pour bouger et effectuer en fait les différents combos. Tu utilises les deux autres boutons, donc pour sauter ou pour donner des coups.
OK.
C'est en fonction de la direction dans laquelle tu utilises la croix directionnelle que tu fais un certain nombre de combos. Voilà. Donc
OK.
bon, il y en a qui sont basiques, il y en a qui sont un tout petit peu plus exigeants à sortir, mais sinon globalement c'est très facile à prendre en main. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vu qu'on a le retour de l'absorption des ennemis, on a aussi le retour du vol de Kirby. Ça, c'était pas présent au fil de l'aventure. Le problème, et finalement, en termes de gameplay, c'est pas si intéressant que ça, même si c'est un retour aux sources. Le problème du vol dans Kirby, c'est que tu peux vraiment passer un niveau sans toucher un ennemi, puisque tu peux voler sans limite, en fait. Tu ne fais que voler dans le niveau. Et donc, du coup, tu passes, il y a certains endroits des niveaux que tu peux passer tranquillement, sans toucher un seul ennemi, parce que, du coup, t'es en train de voler. Et donc, bon. Alors ça, c'est peut-être pas très honnête comme fonction de jouer. Le problème, c'est que c'est faisable et que du coup, il faut que je vous le dise quand même parce qu'il y a des endroits. Alors généralement, c'est pas dur, hein, Kirby's Adventure Wii. Le problème, c'est que
Ouais.
si à un moment où tu coinces un petit peu, tu peux avoir la tentation de le passer en mode vol, quoi. Donc bon, ça c'est
Bon,
un petit
après,
peu.
j'ai envie de dire, si t'as envie de te pourrir le jeu, hein,
C'est ça, mais.
c'est ton choix, quoi.
Le problème, c'est que c'est présent. Et que généralement, tu peux penser qu'au niveau du level design, tu peux faire les choses de telle sorte que tu peux éviter cette facilité-là, quoi. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Et d'une manière générale, je trouve que le jeu est très très facile. Et finalement, c'est du coup, t'as pas vraiment plus de challenge à porter par rapport au fil de l'aventure, et c'est
Bon,
dommage.
après, moi, le truc, bon, je t'avoue, Kirby, moi, je suis pas du tout un spécialiste, moi. Mais justement, là, je voulais te poser une question par rapport à ça, c'est les Kirby sont reconnus pour être difficiles ou
Non.
Non, enfin voilà, c'est ce qui me semblait. C'est les Kirby, c'est pas non plus,
Bien
je veux
sûr.
dire, c'est pas comme Donkey Kong ou qui sont quand même beaucoup, enfin beaucoup plus durs d'une manière générale, quoi.
C'est sûr que la licence Kirby, c'est la licence pour les gosses, quoi.
Ouais.
Après, moi, ce que j'aime bien dans les jeux Nintendo, c'est quand même que malgré l'aspect tout mignon, tu peux quand même avoir, même en étant adulte, tu peux trouver un petit peu de challenge, quoi.
Ok.
Notamment dans les niveaux les plus avancés ou dans des niveaux défis, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est envisageable. Le problème, c'est que dans ce Kirby-là, c'est pas, ça ne se voit pas. Et en fait, tu traverses les niveaux de façon assez mécanique et tu, y a jamais vraiment d'endroit où tu coinces, en fait. Bon, sauf si tu fais pas attention et que tu tombes dans un trou. Mais bon, ça se voit pas vraiment, quoi. Donc, ça, c'est vraiment le problème que je reprocherais, c'est que, de manière générale, c'est très facile. Encore plus si tu joues en multijoueur, parce que le jeu est prévu en fait pour être joué jusqu'à 4 en simultané.
Ah, 4, ça me rappelle quelque chose. Ah non, mais ça me rappelle Mario, c'est normal.
C'est ça, oui, mais c'est le même principe en fait. T'as même le principe de course aux étoiles. Donc sur Mario, c'était la course aux pièces évidemment. Là, c'est quand tu tues un ennemi, tu récupères des étoiles ou des étoiles aussi qui sont disséminées dans les niveaux. Donc celui qui en rapporte le plus, évidemment, a gagné à la fin du niveau. Bon, bref, c'est exactement la même chose. Après, au niveau du coopératif, c'est très bien fait, c'est très sympa. Le problème, c'est que ça rend le jeu encore plus facile.
Ah ouais,
Et ça, c'est
comme le jeu est déjà facile à la base.
ouais. En fait, les seuls moyens de te faire perdre, c'est si tu te gênes l'un l'autre, en fait.
Ouais, donc faut, en gros, si vos potes sont des putes, c'est invitez-les, ce sera fun.
c'est ça. Donc bon, sur le principe, moi j'adore. Les jeux en coopération, ça c'est, y a rien qui me fait plus kiffer. Le problème, c'est que c'est encore plus sympa d'avoir un jeu qui change un petit peu en coopération, c'est-à-dire que quand vous êtes deux, vous avez peut-être deux fois plus d'ennemis ou des ennemis qui sont un petit peu plus résistants. Quand vous êtes quatre, ça peut changer aussi. Le problème, c'est que t'as exactement le même niveau quand t'es tout seul que quand t'es quatre. Et donc du coup, ça rend le jeu 4 fois plus facile quand t'es quatre. Donc
D'accord.
ça c'est un petit peu dommage, voilà. Même si c'est bien pensé, le problème c'est que c'est trop facile, quoi. Donc tu t'amuses 5 minutes. Au bout d'un moment, tu commences à te dire, bon, c'est toujours la même chose, on passe à Mario peut-être. On se fait un Mario
Ouais.
Kart et puis voilà, quoi. Donc c'est vrai que bon, l'aspect coopération, c'est un petit peu le truc qui était poussé en fait par Nintendo pour vendre le jeu. Le problème, c'est que c'est très vite lassant parce que c'est trop facile, quoi. Dernier petit truc, il y a quand même des petits suppléments dans le jeu. Bon, je vous ai pas parlé du scénario parce que on sait ce que ça donne les scénarios de Nintendo, mais en gros, dans le jeu, t'as l'idée de comme récupérer les étoiles dans Mario, récupérer des boulons en fait parce que tu dois réparer un vaisseau d'un petit extraterrestre qui s'est perdu dans le royaume des rêves. Et donc en fait, il faut récupérer dans les niveaux un certain nombre de boulons. Donc c'est en gros c'est les équivalents des étoiles de Mario.
Oui.
Et plus tu en récupères, plus tu débloques des bonus. Alors ces bonus-là en fait, c'est des mini-jeux qui sont basés là pour le coup sur la détection de mouvement de la Wiimote. Donc t'en as trois. Un jeu où tu balances des shurikens sur l'écran.
Je dis comme ça tout de suite, ça fait pas forcément envie, hein,
ouais, mais en fait,
mais
moi j'ai envie de dire que c'est un petit bonus et que c'est plutôt sympa, quoi. S'il y était pas, on n'irait pas crier au scandale, mais il y est, donc c'est toujours sympa quand même. Le deuxième, c'est tu tires sur un robot qui t'envoie des missiles à la figure. Et le dernier, c'est une sorte de tournoi en fait où tu dois battre les différents boss du jeu les uns après les autres. Voilà. Bon, alors ça c'est bon, ça légitime entre guillemets la course aux étoiles, quoi. Et sinon, ces boulons, plus tu en as, plus tu peux débloquer des salles de défi. Alors, les salles de défi, en fait, sont liées à un costume. Et l'idée, en fait, c'est de maîtriser le mieux possible un certain costume pour réussir à avoir la médaille d'or dans cette salle de défi. Et là, pour le coup, on a un tout petit peu plus de challenge que dans le jeu de base. Voilà.
Ok.
Donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur Kirby's Adventure Wii. C'est un jeu en fait qui est moyen plus quoi. C'est pas le jeu qu'il faut.
C'est pas un jeu que tu achèterais neuf, j'imagine.
Non, franchement c'est le jeu qu'il faut. Si vous le trouvez dans un bac pas très cher en occasion, vous pouvez y aller. C'est des petits moments sympas à passer à plusieurs. Après, c'est pas non plus le jeu de plateforme que je vous conseillerais sur Wii, que la Wii qui a quand même des très très bons jeux de plateforme. Si vous voulez vraiment un bon jeu de plateforme sur Wii, vous avez soit Super Mario Bros. Wii, New Super Mario Bros. Wii, les Mario Galaxy ou Donkey Kong Returns, Donkey Kong Country Returns. Voilà. Sinon, celui-là, bon, c'est si jamais vous voulez vraiment rentabiliser votre Wii au maximum jusqu'à sa fin de vie. Vous pouvez peut-être, mais après, je vous conseille pas de l'acheter neuf, voilà, très
En
clairement.
gros, si vous êtes mort de faim,
Bon, après, si vous êtes mort de faim et que vous avez vraiment envie de rentabiliser votre Wii, vous pouvez jouer à Xenoblade, hein. Mais c'est un autre débat.
allez-y. C'est une tristesse, oui.
Voilà.
Eh bien voilà, c'est fini pour le jeu du moment. Et maintenant, on va passer au point culture. Et cette semaine, c'est moi qui m'y colle. Et ouais. Et cette semaine, je vais vous parler d'une saga MP3. Et oui, et cette saga s'appelle Eden.
Imaginez-vous un instant, vous réveillez après un dodo de 8000 ans à bord d'un vaisseau spatial en orbite d'une planète morte. Une planète qu'on appelait auparavant la Terre. Imaginez-vous dans ce vaisseau poursuivi par un autre vaisseau 10 fois plus gros. Comment réagirez-vous?
Laissez-moi sortir d'ici! Je veux sortir d'ici! Maintenant! Laissez-moi sortir, je veux sortir
maintenant! Restez à 6 ans! C'est un ordre, professeur, les boucliers!
Mais de quel droit vous donnez-vous des ordres?
Inutile pour le moment, capitaine!
Depuis que je suis capitaine, belle au bois dormant. Prof, combien de temps avant de warper?
10 secondes!
Banana Live!
Je sais, Jess, je sais.
Non, mais c'est une blague! Et je ne suis pas votre belle au bois dormant!
Accrochez-vous!
Laissez-moi sortir de ce vaisseau, truc machin!
Si c'est pour prendre l'air dehors, c'est une mauvaise idée. Il n'y en a pas de l'air. C'est l'espace, c'est le principe.
Mais je m'en prends trop fou de vos principes.
Accrochez-vous, ce n'est pas un principe, c'est un conseil.
Mais même vos conseils ne me... Même vos conseils ne me font ni chaud ni...
Notre système, warp enclenché.
Et l'espace devant nous semble à se distordre. Les étoiles éclatant en rayons bleus et blancs pour finalement nous happer.
Jess, warp, maintenant.
Tu me diras, Eden, mais qu'est-ce que c'est, mon cher tyran?
Qu'est-ce que c'est? Et déjà, rappelle-moi ce que c'est qu'une saga MP3.
Alors, pour rappel, donc les sagas MP3, donc ça a été initié par le donjon d'Albuck. Pour les trois incultes dans la salle qui ne sauraient pas ce qu'est le donjon d'Albuck, donc c'est les aventures d'un groupe d'aventuriers quoi qui parcourent un donjon et en gros ce sont tous des bras cassés. Et en fait, si vous voulez, donc c'est en audio, hein, c'est intégralement en audio. Et l'idée, en fait, grosso modo, c'est une parodie de jeu de rôle, quoi. Quand t'as joué à Donjons et Dragons, tout de suite ça te parle parce que voilà, le mec qui fait des échecs critiques, le voleur qui se prend des pièges, etc. Enfin bref, c'est une parodie de jeu de rôle et donc ça a initié un mouvement. Bon, il faut savoir qu'à la base, celui qui a inspiré ça, c'est quelqu'un qui faisait des sketchs à la radio, ça, Monsieur François Pérusse, qui faisait donc des sketchs à base qui déformait sa voix et tout. Et en fait, la technologie a été reprise depuis et c'est celle qui a servi donc pour le Donjon d'Albuck. Et depuis donc, écoute, ça s'est pas mal développé, ma foi. Donc il y a eu plusieurs sagas, hein, Reflet d'Acide, Survivor, etc. Vous me direz, mais pourquoi je vous parle d'Eden du coup? Parce que bon, des sagas MP3, il y en a des tonnes. Mais ouais. Eden, pourquoi cette saga m'a attiré tout particulièrement? Parce qu'il faut savoir donc que les sagas MP3, d'une manière générale, c'est surtout en fait des sagas basées sur l'humour. Mmh. Et là, la spécificité d'Eden, en fait, c'est que bon, il y a l'humour, mais c'est pas central au truc, quoi. C'est pas Nullbuck où vraiment l'objectif c'est de faire marrer les gens. Là, Eden, si vous voulez, c'est déjà c'est des vrais acteurs. Mmh. Enfin, non pas qu'il n'y ait pas des talents d'acteur chez Nullbuck, mais si tu veux, ils utilisent des logiciels pour déformer la voix, etc., pour faire les personnages féminins alors que c'est un mec derrière, par exemple. Enfin, tu vois, mais alors que là, c'est vraiment il y a de vrais comédiens derrière qui parlent avec leur vraie voix à eux. Mmh. Déjà, premier point. Et second point, c'est, entre guillemets, sérieux.
Disons que le but premier, c'est pas l'humour, quoi.
Ouais, ouais, le but premier, c'est pas l'humour. Mm. Là, le but premier d'Eden, c'est de vous faire vivre une grande saga spatiale. Parce que, très clairement, je vous le dis, ça s'inspire de Star Wars en long, en large et en travers. Mm-hmm. Mais très clairement. Alors, bon, pour vous présenter un peu l'histoire, Eden, c'est l'histoire... jeune et cervelé, faut dire ce qu'il est, qui s'appelle Ellen Fresh. Ça passe vers le milieu du 21e siècle. Il y a une station spatiale qui se trouve en orbite de la Terre. Mmh. Et cette jeune étudiante va se prêter à une expérience en échange d'une rémunération, n'est-ce pas, pécuniaire. Mmh. Et l'expérience, en gros, c'est de se faire cryogéniser. D'accord. Et oui, on est entré à l'ère spatiale, etc. Donc, on cherche des moyens de faire des voyages longue distance et ils conduisent des expériences sur la cryogénisation. Et donc, la saga commence à un moment où cette jeune étudiante va se faire cryogéniser pendant une semaine.
D'accord.
Mais bien évidemment, vous imaginez qu'il y a un hic.
Oui.
Parce que là, c'est le 21e siècle, c'est pas encore, je veux dire, c'est pas encore Star Wars, quoi. Forcément, il va se passer un truc. Eh bien, le truc, c'est que quand il va se réveiller... Eh ben, ça fera un peu 8000 ans qu'elle a été cryogénisée, quoi. Et là, eh ben, elle va se réveiller comme ça, en comprenant pas trop ce qui lui arrive, parce que elle reconnaît un peu la station, si tu veux, mais c'est bizarre, il y a du changement depuis, quoi. C'est poussiéreux, c'est plus vieux, il y a des tuyaux partout et tout. On dirait qu'il y a eu des travaux en une semaine, il y a eu des choses. Hein. Eh ben, écoute. Elle va se rendre compte que l'humanité a été exterminée. En gros, ils ne sont plus que deux survivants. Elle est le capitaine d'un navire. L'idée étant que le professeur qui l'a cryogénisé, qui est maintenant une espèce d'intelligence artificielle emprisonnée dans un vaisseau.
Bah tiens.
Oui, d'ailleurs, j'adore la première fois qu'il la voit, il dit « Ouais, ouais, ça fait... je vous avais un peu oublié. » Bah, l'idée, tu l'as bien comprise, c'est que bah, ils vont recréer l'espèce humaine, quoi, tout simplement.
D'accord.
Bon, le problème, c'est que nos deux tourtereaux ne s'entendent pas forcément très bien, quoi.
D'accord.
Déjà, ça, premier point. Ensuite, second point, pour une raison qu'on ignore, les humains dans la galaxie nous sont, mais alors, pas du tout appréciés, quoi.
D'accord.
C'est dès qu'ils débarquent quelque part, on essaie de les buter et tout, enfin, elles comprennent pas trop. Donc vous imaginez, donc il y a un secret derrière soi, un secret qui est en rapport avec ce qui s'est passé pendant ces 8000 ans. Mmh, mmh. Quoi qu'il en soit, le scénario est vraiment très bien écrit, les dialogues sont très fins, vraiment, c'est une merveille. Et surtout, pour moi, la grande qualité d'Eden, c'est toute la partie audio, quoi. Vraiment, j'ai été sur le cul. Il y a des effets sonores, des bruitages, tu t'y es, quoi. Il y a des batailles spatiales, il y a des, vraiment, c'est extraordinaire. Tu vois la scène de Star Wars où t'as Yann Solo dans le bar où il tire et tout. Mmh. Bah, franchement, ils arrivent à reproduire ça en audio. Et c'est juste énorme, quoi. C'est le travail fait sur le son est excellent. On y est, quoi. On est dedans. On a les décors qui apparaissent dans notre tête tellement c'est bien fait. C'est extraordinaire. Et en plus, les dialogues, donc comme je disais, sont très bien écrits. On s'attache aux personnages. Il y a une petite douche d'humour qui est sympathique, mais qui, contrairement aux Donjons Nullbuck, etc., n'est pas le centre du truc. Donc, si vraiment vous cherchez vraiment quelque chose d'un peu... Enfin, ça me gêne de dire sérieux, mais quelque chose
C'est pas parodique, en tout cas.
Ouais, c'est pas parodique. Si vous cherchez une vraie saga de science-fiction, vous allez être servi, quoi. C'est passionnant. L'histoire est... Bon, c'est du Star Wars, quoi, faut ouais. être clair. Il y a quelques idées sympathiques vers la fin, notamment sa philosophe un peu, etc., mais c'est vraiment c'est très fin, c'est très bien écrit. Et dans tous les cas, moi je vous incite à aller donc sur le site qui s'appelle Audiodramax,
oui.
où vous retrouverez cette saga ainsi que deux trois autres qui sont aussi très bien écrits. Je vous recommande notamment Poseidon, qui est vraiment une saga sous-marine qui est aussi, mais alors excellente. Alors là pour le coup, il n'y a pas un peck d'humour, quoi. C'est c'est un huis clos avec un mec qui est tout seul dans son phare sous la mer. Et franchement, là aussi sur la partie sonore, ça déchire, etc. Bref, vraiment une saga que je vous recommande. Le jeu des acteurs est énorme. Il se passe quelque chose, quoi. Je ne saurais pas comment vous dire ça. Il y a une alchimie qui se crée. Ça serait un film, tu vois, ça serait pareil.
D'accord.
C'est excellent.
Ouais. Et puis ça encourage l'imagination aussi. Donc ça, c'est une bonne chose.
ouais.
Et donc, bon, bien évidemment, c'est gratuit. Hein, on l'a pas précisé. Hein, vous allez juste sur le site.
Il y a trois saisons actuellement.
C'est ça. Et donc ça, à peu près, ça durerait combien de temps Ça dure plusieurs heures, j'imagine.
Alors ouais, alors attends, j'ai plus le temps en tête, mais ça dure très longtemps, je pense que ça dure 3 heures à peu près, ou même, je me demande si c'est pas 5 heures, tu vois, au total, hein, sur les 3 saisons.
D'accord.
Donc ça fait un truc assez conséquent à digérer, sachant que sur le site, ils ont mis un player qui permet d'enchaîner directement les épisodes les uns après les autres. Donc à la limite, vous pouvez mettre pause à un moment donné et passer à autre chose, noter l'épisode où vous en êtes, etc., vous pouvez revenir plus tard, y a pas de problème, quoi.
Okay.
Sachant qu'en plus le truc qui est pas mal, c'est que ils ont retiré dans la version compilée, ils ont retiré les parce que tu sais, chaque début d'épisode normalement t'as un récapitulatif, ils ont retiré ça et du coup ça passe mieux, parce que avant il avait laissé et c'était assez agaçant, tu vois, d'avoir à chaque fois le truc
c'est sûr.
Et là pour le coup ça passe très bien, franchement c'est très sympa.
Bon, en tout cas, ça m'intéresse, donc j'irai voir.
À voir et surtout à écouter.
Ouais, c'est sûr.
Eh bien voilà, c'en est tout pour les podcasts cette semaine. Bonne écoute, très chers auditeurs. Quant à moi, écoutez, je vais essayer de mettre une tôle à Morgan s'il attend à StarCraft 2. Et ensuite, j'irai à ma soirée de jeux de rôle. Et oui, parce que les exaltés communistes m'attendent. Et je ne raterai ça pour rien au monde. Attends, écoute, ça va roxer. On va avoir un détective Conan version robot qui, pendant qu'il résolvera des enquêtes, devra empêcher des bombes d'exploser partout dans la ville parce qu'il y a son rival maléfique qui va foutre la merde, évidemment. D'un autre côté, t'as l'héroïne qui ressemble à Gabi dans Gun, qui accessoirement est lesbienne et veut clamer son amour au monde entier. Parce que, évidemment, cet amour est interdit, n'est-ce pas? Enfin bref, c'est une part... Ah ouais, en plus, il y a un perso qui se trouve être un clone d'un mec qu'on a rencontré précédemment dans la campagne et tout, donc voilà. Et ce mec, c'est un peu un dictateur à la base, donc il y a chassé le naturel, le clone va redévelopper certains traits de caractère, n'est-ce pas? Donc il va retenter de conquérir le monde.
Oula.
Et bref, ça va être une partie qui va être passionnante. Et il faudra que je vous parle du jeu de rôle à ces quatre, parce que le jeu de rôle, c'est bien, très chers amis.
Très
Allez,
bien.
Sur ce, c'est terminé pour cette semaine. Hein, salut mon très cher Mandren.
Ouais, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, ciao.
Salut.